Vous écoutez On lit pour vous.
Marie Vareille, Destin brisé de femme. Un texte de Benjamin Eskenazi, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Fresque familiale aux allures de thriller, nous qui avons connu Solange, suit cinq générations de femmes françaises dans leur lutte pour l'émancipation des prémices du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Marie Vareille n'est pas du genre à tourner autour du pot. Dès la première phrase de son roman, elle vous embarque dans des montagnes russes émotionnelles et vous voilà partie pour une course sinueuse sur plus de 400 pages. Jugez vous-même la puissance évocatrice de l'incipit. Je vais commencer, ma biquette, par te dire ceci. Le jour de la mort de Solange, ce jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les Mirabelles. Avouez que ça plante le décor de bien belle façon. Ce ne sont pas du tout des mots posés au hasard, me confie Marie Vareille. Je l'ai d'ailleurs écrite en dernier. Quand je lis, je fais extrêmement attention aux premières phrases des romans. Je peux lire 600 pages pour une première phrase réussie. La mystérieuse meurtrière qui ouvre le roman est Célestine. À l'heure où elle écrit ses livres, elle est au crépuscule de sa vie. À 107 ans, elle n'a plus rien à perdre et décide de coucher sur papier l'histoire de sa famille pour qu'il en reste une trace, pour que quelqu'un enfin sache la vérité. Sur elle, sur sa mère Marguerite, sur Solange et les ravages qu'a causé sa maladie mentale, sur Jeanne, elle veut expliquer, contextualiser, justifier. À travers son récit de vie, on voit s'exprimer la puissance de la génétique, comment les ascendants héritent de caractéristiques physiques, de traits de personnalité. On hérite aussi de traumatismes et de rêves. Une ambition peut se transmettre de génération en génération, souligne Marie Vareille. Et puis, derrière le destin de sa famille, c'est toute l'évolution de la condition féminine en France au XXe siècle que laisse entrevoir Célestine. L'autrice avait envie de parler de femmes qui ont eu des vies simples, de ces femmes ayant beaucoup subi, qui ont vu les générations suivantes avoir des opportunités leur ayant été refusées. Elles sont nées dans un monde où elles n'avaient pas le droit de vote. Elles étaient citoyennes de second rang, n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler. Elles avaient un statut d'enfant, d'abord sous le parrainage de leur père, puis de leur mari, explique Marie Vareille. Dont les propres grand-mères ont abandonné leurs études, l'une pour s'occuper de sa mère gravement malade, l'autre pour élever son premier enfant. Une société profondément inégalitaire. Avez-vous déjà vu ces bouteilles d'eau de vie dans lesquelles se trouve une poire entière? Vous êtes-vous déjà demandé comment l'agriculteur se débrouille pour faire rentrer le fruit dans la carafe alors qu'il est bien trop gros pour passer par le goulot? La réponse est aussi simple que surprenante. Les poires mûrissent directement dans les bouteilles que l'on installe sur l'arbre alors que les fruits sont juvéniles. Les femmes de « Nous qui avons connu Solange » sont comme ces poires prisonnières. On ne leur permet de s'épanouir que dans un carcan extrêmement serré. Naviguant dans un monde d'hommes, elles sont assignées à un rôle précis, leur destin est contraint. Elles font ce qu'elles doivent, ce qu'on attend d'elles, et non ce qu'elles veulent. Comme tant de femmes depuis la nuit des temps, elle a sacrifié son bonheur à celui de ses enfants, écrit Marie Vareille à propos d'un de ses personnages, dont je préfère taire le nom pour ne pas divulgâcher. Si cette phrase est si terrible, c'est qu'elle est terriblement vraie, que bien des femmes continuent aujourd'hui de vivre par procuration, subissant un rôle extrêmement genré d'épouse, de mère, de grand-mère. Dans ce roman, les femmes voient en quelque sorte leur vie confisquée par la société. C'est ce dont parle Virginia Woolf dans « Une chambre à soi », souligne l'autrice. À partir du moment où les femmes n'ont jamais eu de pièce à elles, puisqu'elles étaient toujours dans la pièce commune à s'occuper du foyer, des enfants, des repas, etc., elles n'avaient pas la possibilité de se poser pour faire autre chose. Le miracle, explique très bien Woolf, c'est qu'on ait pu avoir des autrices comme Jane Austen, George Sand ou les sœurs Brontë, parce que rien, rien dans leur vie, dans la façon dont elles ont été élevées, dans leur environnement, dans leur quotidien, ne les poussait à écrire ou à être artistes. Être féministe, c'est être humaniste. Le livre sort à une époque où les acquis sociaux sont violemment attaqués, un peu partout dans le monde. Ces droits que notre génération pense naturels sont en réalité extrêmement récents, et ils sont fragiles. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, de constater la montée des mouvements masculinistes, fait valoir Marie Vareille. Je suis féministe, évidemment. Ne pas l'être pour moi, c'est être sexiste. C'est une question d'humanisme de base. Tout le monde devrait vouloir que les femmes et les hommes soient égaux, or il est évident qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc, si tu n'es pas féministe, c'est que tu valides la situation en l'état. Ajoute celle qui, par ailleurs, est outré de voir certains agiter l'épouvantail de l'extrémisme féministe. Les extrémistes, ce sont des poseurs de bombes, des tueurs de civils. Les féministes n'ont jamais tué personne, assène Marie Vareille. Dans un passage du livre, Solange est révoltée par la découverte à l'école du célèbre poème de Rudyard Kipling intitulé « Tu seras un homme, mon fils ». Car l'écrivain britannique, en plus du fils dont il est question, avait également deux filles, pour qui il n'avait pas jugé bon d'avoir de grands rêves ou de grandes ambitions. C'est de cet outrage qu'est née la vocation de poète de Solange. Faut-il lire, derrière le ressenti de Solange, celui de l'autrice ? Oui, bien sûr. Je trouve qu'on n'apprend pas aux filles à être assez ambitieuses. On leur apprend à s'effacer, à s'occuper des autres et à se sacrifier, alors qu'on apprend aux garçons à s'occuper d'eux. Mais d'un autre côté, le paradoxe, c'est que je suis persuadée que les qualités qu'on appelle féminines, l'empathie, la douceur, le soin, la communication, sont des qualités supérieures et fondamentales dans une société qui aspire à être pacifique et épanouie. C'était Marie Vareille, Destin brisé de femme, un texte de Benjamin Eskenazi, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Les bâtiments pourraient bientôt être dotés d'un système immunitaire. Un texte de Carl Zimmer du New York Times, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Lynn Zemar, ingénieure en environnement, se tient près de deux boîtes de plastique transparent remplies de tubes, de buses et de composants électroniques. Un étrange prototype qui pourrait un jour servir à protéger les enfants en garderie contre les virus qui se transmettent par l'air. Une buse remplit la boîte de droite d'une fine brume argentée. Une pompe aspire une partie de cet air vers la boîte de gauche où un échantillonneur capte les particules et les gouttelettes en suspension. Peu après, un écran numérique fixé à la boîte devient rouge. Détecté, allergène d'acariens DERF1. Le DERF1, une protéine libérée par les acariens, peut déclencher des crises d'asthme lorsqu'il est inhalé. L'appareil de Mme Marr en détecte 843 picogrammes par mètre cube d'air. Un seul grain de sel pèse environ 10 millions de fois plus. Avant cet instrument, il nous fallait 2 jours pour déterminer la quantité présente dans l'air, explique Mme Marr. Maintenant, nous le faisons presque en temps réel. Les allergènes d'acariens ne sont pas les seules menaces que l'équipe de Mme Marr cherche à traquer dans l'air. La technologie, encore en développement, peut déjà repérer la grippe, le coronavirus et le E. coli. Nous sommes capables de détecter 10 éléments différents et d'ici la fin du programme, il y en aura 25, dit-elle. Foire scientifique. Mme Marr doit hausser le ton pour se faire entendre au 5e étage d'un immeuble de bureau de Washington où plus de 200 personnes circulent afin de découvrir une frontière scientifique en pleine évolution. Des technologies conçues pour rendre l'air intérieur plus sûr dans les garderies, les écoles, les hôpitaux, bref, partout où des gens se rassemblent. Cette foire scientifique, pour adultes, est organisée par l'Advanced Research Projects Agency for Health, ARPA-H, qui consacre 150 millions de dollars américains à créer ce qu'elle appelle un système immunitaire pour chaque bâtiment. Au début de l'événement, la directrice du programme, Jessica Green, prononce un bref mot de bienvenue. Nous avons le droit de respirer un air intérieur sain, déclare-t-elle. Madame Green reprend ainsi les mots de William et Mildred Wells, un couple de chercheurs qui ont découvert, dans les années 1930, la menace que représentent les microbes en suspension dans l'air. En 1940, ils ont protégé notamment des enfants d'école de Philadelphie contre une épidémie de rougeole en installant dans les salles de classe des lampes à ultraviolets qui désinfectent l'air. Je crois que l'accès à un air pur pour les enfants et les adultes devrait être considéré comme aussi important que l'accès à de l'eau pure et du lait pur, a écrit plus tard Mildred Wells. Mais elle et son mari n'ont pas réussi à convaincre leurs collègues. Et la menace des microbes transmis par l'air est restée sous-estimée pendant des générations. Lorsque le virus de la COVID-19 est apparu, en 2020, l'Organisation mondiale de la santé a affirmé avec insistance qu'il ne se transmettait pas par voie aérienne, une position qui s'est révélée erronée. Madame Marr, qui enseigne à Virginia Tech, a joué un rôle de premier plan pour amener les autorités de santé publique à reconnaître que le coronavirus SARS-CoV-2 se transmet bel et bien par l'air. Elle et d'autres chercheurs se disent frustrés de constater à quel point il peut être difficile d'identifier de tels virus. Nous passons une journée à recueillir des échantillons sur un filtre, puis nous les apportons au laboratoire et le lendemain, il nous faut encore plusieurs heures pour déterminer quelle quantité s'y trouve, explique Mme Marr. Au moment où l'on obtient ce chiffre, il est trop tard pour agir. Détecter les virus dans l'air. La COVID-19 n'a pas disparu. Elle s'est ajoutée simplement à une cohorte croissante de virus transmis par voie aérienne. La rougeole, qui se transmet entièrement par l'air, connaît une recrudescence dans des poches de population insuffisamment vaccinées aux États-Unis. La grippe se propage par plusieurs voies, mais l'air semble en être une importante. Au-delà des agents infectieux, l'air intérieur peut également contenir d'autres menaces comme des protéines d'acariens, des spores de moisissure et des grains de pollen. Les ingénieurs continuent de mettre au point des systèmes sophistiqués pour préserver la qualité de l'air. Certains immeubles résidentiels haut de gamme vantent à l'occasion les technologies utilisées pour protéger leurs locataires. Mais ces systèmes sont loin d'être généralisés. L'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, les solutions visant un air intérieur sain ne s'imposent pas encore largement sur le marché, c'est qu'elles coûtent cher, explique Mme Green en entrevue. Il nous faut des solutions qui soient à la fois éco-énergétiques et bénéfiques pour la santé. Mme Green, elle-même spécialiste des microbes en suspension dans l'air, lance à l'ARPA-H un programme destiné à faire avancer ces solutions. Bref, pour « Building Resilient Environments for Air and Total Health », soit « Bâtir des environnements résilients pour l'air et la santé globale ». L'objectif est que les bâtiments combattent les maladies comme ils combattent les incendies. Lorsque la fumée déclenche les détecteurs, le système de contrôle d'un bâtiment peut réagir en pulvérisant de l'eau par les gicleurs ou en libérant des produits chimiques extincteurs. Il n'a pas besoin d'attendre qu'une personne examine les signaux et décide de la réponse à apporter. Quatre équipes obtiennent des contrats pour créer ces systèmes. Toutes doivent relever d'importants défis d'ingénierie. Il est beaucoup plus difficile d'identifier des virus en suspension dans l'air que de détecter de la fumée. Une très faible concentration de microbes ou d'allergènes peut être dangereuse. Les capteurs doivent donc échantillonner d'énormes volumes d'air en conservant les gouttelettes et les particules dans un liquide afin de les analyser. Ces équipes doivent concentrer quelque chose comme une piscine d'air dans une cuillerée à soupe, dit Mme Green. Chaque équipe mise sur une stratégie différente. Safe Traces, une entreprise californienne, dirige un groupe qui construit un échantillonneur d'air prenant la forme d'une large boîte métallique blanche et basse. L'air circule dans la boîte jusqu'à une cartouche où des produits chimiques décomposent les cellules et isolent les gènes qu'elles contiennent. La cartouche contient des crochets moléculaires, chacun capable de s'accrocher à une séquence précise d'ADN ou d'ARN provenant d'un virus. Lorsqu'un crochet capte du matériel génétique, il émet un éclat lumineux. Les chercheurs espèrent que leur capteur pourrait détecter jusqu'à 100 virus. Ils développent aussi un logiciel capable de reconnaître les signaux indiquant que les occupants courent un risque élevé d'infection. Le logiciel peut alors réagir, par exemple, en activant des lampes à ultraviolets dans le système de ventilation d'un hôpital. En plus des virus de la rougeole, les rayons UV détruisent de nombreux dangers présents dans l'air. Le personnel hospitalier peut recevoir des messages lui demandant d'utiliser une protection supplémentaire pour éviter d'inhaler les virus. Puis, une fois que les capteurs établissent que la menace a disparu, l'hôpital peut reprendre son fonctionnement habituel. Une autre équipe, dirigée par l'entreprise floridienne Poppy, conçoit un système destiné aux écoles. Les signaux transmis par ces échantillonneurs d'air activent les filtres à air dans les salles de classe. Ceux-ci fonctionnent jusqu'à ce que l'air y redevienne sûr. Le groupe de Mme Marr se concentre sur les garderies. L'équipe crée un logiciel capable de modéliser les pièces d'un centre, de prévoir la circulation de l'air entre elles et d'évaluer la menace que pose chaque pièce si une personne infectée entre dans le bâtiment. Le système peut faire entrer de l'air frais de l'extérieur ou activer des purificateurs d'air afin de réduire le risque. Toutes les équipes travaillent en vue de mettre leur système à l'épreuve dans des conditions réelles. Safe Traces prévoit tester un prototype au Walter Reed National Military Medical Center en 2028. Le groupe de Mme Marr se prépare à tester son système dans des garderies en Californie, au Michigan et en Caroline du Nord. La technologie vise à réduire les maladies respiratoires d'au moins 25 % dans chaque milieu. Mais les systèmes doivent aussi être abordables à l'achat et à l'utilisation. La RPA-H s'attend à ce qu'ils offrent un rendement du capital investi de 10 %. C'était « Des bâtiments pourraient bientôt être dotés d'un système immunitaire », un texte de Carl Zimmer du New York Times, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.
Au rayon de la culture québécoise. Un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Les temps sont durs pour la culture, à travers les compressions, les modèles d'affaires brisés et le financement qui rétrécit, on cherche parfois des traits de lumière. Un de ces rayons éblouissants de notre culture nous vient de la musique. Lancée en février 2025, la plateforme musique.ca, M-U-S-I-Q-C.ca, connaît un succès qui a surpris même ses créateurs. Près de 225 000 utilisateurs en un an, dont 65 % de visiteurs récurrents. L'initiative de la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs, SPACQ-AE, ne cherche pas à concurrencer Spotify, Apple Music ou Deezer, mais à les utiliser autrement. Pour contrebalancer le fait que, sur ces géants du streaming, la musique francophone québécoise représente à peine 5 % des écoutes au Québec, musique.ca propose des listes d'écoutes conçues non par des algorithmes, mais par des humains, programmateurs experts, journalistes, artistes, qui connaissent et défendent ce répertoire. La technologie de musique Québec.ca est d'une convivialité exemplaire et se dépose par magie sur votre application d'écoute musicale préférée. C'est, comme l'a formulé la directrice générale de la SPACQ-AE, Ariane Charbonneau, une vitrine qui met en lumière ce qui, autrement, se retrouverait à l'arrière-boutique, à côté des toilettes. La recommandation humaine comme antidote à l'invisibilité numérique. C'est cette même philosophie de curation humaine pour favoriser une meilleure découvrabilité qui anime notre projet quialu.ca. Quialu.ca, où la communauté de lecteurs et de lectrices peut désormais créer des étiquettes de découverte afin de mieux transmettre le goût de lire un livre. Vous pouvez filtrer le catalogue afin de découvrir un livre décoiffant, épicé ou haletant, avec des personnages charismatiques, résilients ou moralement ambigus, qui traitent de deuil, d'inégalité sociale, d'enjeux LGBTQ+. Ce projet, réalisé dans le cadre de notre collaboration avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, avec qui nous avons lancé biblio.quialu.ca, mise sur l'expertise humaine pour guider les lecteurs dans l'océan du numérique. Lorsqu'elles sont créées par les libraires ou le personnel des bibliothèques, les étiquettes disponibles sur quialu.ca/explorer témoignent de cette intelligence collective, où chaque recommandation porte la signature d'un passeur qui connaît son métier. Tout comme le partenariat avec les diffuseurs de Rideau, cette initiative a été rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications par l'intermédiaire de son programme Rayonnement de la culture québécoise. La collaboration entre secteurs culturels a aussi été au cœur d'un autre de nos projets qui s'est appuyé sur la participation généreuse des salles de spectacle membres de l'association Rideau, permettant d'augmenter substantiellement le tirage papier et la distribution de notre revue « Les libraires » afin de rejoindre ainsi des publics qui n'auraient peut-être pas croisé notre chemin autrement. Des diffuseurs de Matagami et Lebel sur Quevillon, dans le nord du Québec, jusqu'au théâtre Le Patriote, Sainte-Agathe-des-Monts, et le théâtre du Marais, Valmorin, dans les Laurentides, en passant par le théâtre des Jardins, à La Salle, le domaine Forget, à Charlevoix, et le Diamant, à Québec. On a senti, au cours de la dernière année, un appui solidaire à notre milieu littéraire. Le partenariat a pris racine et se poursuit en certains endroits au-delà de la durée de cette initiative spéciale. Notre expansion canadienne avec booksellers.ca, l'extension anglophone de leslibraires.ca, lancée en février dernier, s'inscrit elle aussi dans cette logique de collaboration afin d'offrir une solution de rechange aux plateformes étrangères. Avec l'objectif d'améliorer la disponibilité pan-canadienne des livres dans les deux langues officielles, en réunissant les librairies et les éditeurs indépendants du pays sur une même grande plateforme nationale, dans le contexte du manque de librairies francophones hors Québec, Notre projet représente une opportunité pour les éditeurs québécois d'exporter leurs titres dans le reste du Canada en ligne ou dans les librairies anglophones indépendantes qui souhaitent combler ce manque. Ce n'est pas sans défi, mais c'est un rayon de plus. Et, alors qu'on ne les attendait pas, entre la plateformisation de la culture et la montée de l'intelligence artificielle générative, surgissent les promoteurs culturels Alexandre Leclerc et Maxime Leflaguet, qui puisent très loin dans nos racines et dans l'infinie proximité humaine. La réouverture de Chez Bozo, la légendaire boîte à chansons de la rue Crescent, fondée en 1959, 67 ans jour pour jour après son inauguration, n'est pas un anachronisme. Cette salle intimiste de 60 places et son mur couvert d'empreintes de mains colorées de nos légendes de la chanson ont été sauvés du pic. Chez Bozo avait été créé, à l'époque, pour pallier l'absence de lieu pour la chanson québécoise, une réaction directe à l'hégémonie culturelle française sur les scènes montréalaises. Ce n'est pas d'hier qu'on résiste. Seule survivante du groupe qu'elle avait formé avec Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé, Raymond Lévesque et Hervé Brousseau, Clémence Desrochers a confié à Alexandre Vigneault de La Presse en entrevue « On se donnait de la force en se réunissant ». C'est également sous la plume de ce dernier que nous avons pu vivre la magie de cette soirée de réouverture, jaloux du public à qui Évelyne Brochu, au milieu de son tour de chant, a déclaré avec justesse « J'ai l'impression que là d'où on vient, tend la main à là où on va. » C'était « Au rayon de la culture québécoise », un éditorial de Jean-Benoît Dumais, paru le 9 juin 2026 dans la revue « Les libraires ».